Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow ka
fa ni
fa bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, les nouvelles d'ici et d'ailleurs, ce titre va comme un gant au sujet qui nous intéresse cet été, à savoir les EMI, les fameuses expériences de mort imminente que nous relatent des gens ayant frôlé la mort, voire en état de mort cérébrale ou dans d'autres circonstances. Mais justement, quelles que soient les circonstances, l'expérience est la même ou presque, à savoir la conscience hors du corps, le tunnel sombre, la lumière au bout, lumière souvent traduite comme vivante, aimante et protectrice. Et puis, cette sensation de joie absolument indicible dont les expérienceurs, comme on les appelle, font état, avec souvent l'impression d'être totalement hors du temps. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que nous avions quitté notre invité la dernière fois, le docteur Jourdan, grand spécialiste de la question des EMI, auquel il a consacré un livre très complet dont je vous conseille la lecture, son titre Deadline, vous le retrouverez en livre de poche. Et quant à nous, eh bien, nous avons rendez-vous avec le docteur Jourdan, sans plus tarder, le docteur Jourdan qui nous parle de ce temps étrange dans lequel ont vécu les expérienceurs.
La notion de temps en particulier, elle est complètement différente. Les expérienceurs vous disent j'étais dans un éternel présent. Ou alors il y avait deux sortes de temps. Par exemple, quand ils sont, eux, dans leur propre espace-temps, et ils voient ce qui se passe dans le bloc opératoire, il y a un déroulement. Il y a une pince qui tombe, l'infirmière qui se baisse, qui la ramasse, qui se fait engueuler. Bon, ça, c'est séquentiel, comme on a l'habitude de le vivre. Donc, ils voient quelque chose qui se passe dans notre univers, d'une certaine manière, avec un temps qui se déroule. Et en même temps, eux, ils vous disent « j'étais hors du temps ». Et la façon dont on peut comprendre ça, c'est un peu comme un astronaute qui est dans sa capsule, qui est en apesanteur, parce qu'il est en orbite, donc il ne ressent pas les effets de l'apesanteur. Maintenant, si avec un télescope, il regarde sur Terre, il peut voir une pomme tomber d'un pommier. Donc, il voit les effets de l'apesanteur, mais il n'y est pas soumis. Là, c'est un petit peu pareil par rapport au temps. Les expérienceurs vous disent qu'ils étaient dans il n'y avait pas de temps qui passait. C'est pour ça aussi qu'il y a cette impression d'instantanéité quand il y a des questions-réponses. Ils sont totalement incapables de vous dire le temps que ça a duré. Mmh. C'est à la fois un instant et une éternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que nous, on est tous soumis à un temps qui est à peu près le même pour tout le monde. Et un temps qui passe, ce qui vient de se passer il y a 2 minutes, c'est fini, c'est passé. Ce qui va se passer dans 5 minutes, on n'en sait rien. On vit l'instant présent et on avance. On a l'impression d'avancer dans le temps ou que le temps passe. Dans cet état-là, c'est totalement différent et c'est indescriptible la plupart du temps.
Alors, on parle de ça à notre aise, hein, j'allais dire, comme ça, assez froidement. Mais quand on entend un expérienceur raconter ce qui lui est arrivé, eh bien, les larmes jaillissent souvent. Les gens, en se remémorant, en racontant à nouveau leur histoire, versent des larmes. On sent que ça a été un choc profond intérieurement, hein, ce qui nous amène à parler des répercussions, parce que la dernière étape, c'est le retour de la conscience dans les froides limites du corps. Et souvent, là, le retour, dans un premier temps, hein, en tout cas, hein, dans un tout premier temps, le retour est quand même mal vécu par l'expérienceur. Hein.
Il est mal vécu parce qu'ils étaient dans un milieu, un endroit, un état où, je vous dis, une des choses les plus fréquentes que j'ai entendues, c'est cette impression de retourner à la maison, de rentrer au port, de retrouver un état qu'on connaissait, qu'on avait complètement oublié. Et imaginez que vous êtes au bagne à Cayenne, vous avez fait votre vie là-bas, vous avez monté un petit commerce et tout, et puis au bout de 30 ans, on vous dit, bon, ben, ça y est, tu as fait ta peine, tu peux retourner. Vous allez retourner, vous rentrez chez vous. Mais vous aviez complètement oublié que vous aviez une famille, que vous aviez des amis, que vous aviez votre maison, tout ça. Vous retrouvez ça. Bon, vous multipliez ça par 1000 et vous aurez l'impression qu'on ces personnes, quand ils se retrouvent, s'ils essaient de vous décrire quand ils sont pendant leur expérience. Et ensuite, on vous dit, maintenant tu retournes au bagne. Ah, là c'est beaucoup plus dur. En plus, ils se retrouvent, ils se réveillent dans un corps qui souvent a souffert, ils ont des fractures, ou ils ont les séquelles d'un coma ou d'un arrêt cardiaque, ils sont en réanimation, ils ont des tuyaux de partout, ils se retrouvent dans un corps qui est limité alors qu'ils n'avaient plus de limites, et ils se retrouvent avec un cerveau qui est limité alors qu'ils avaient l'impression d'avoir une pensée immense et instantanée. Donc ils se retrouvent dans une espèce de carcan. Ça, c'est dans l'immédiat, au retour de l'expérience. Après, il faut encore intégrer cette expérience dans une vie. Alors ça, c'est encore une autre question qui est pas prêt d'être résolue, parce que il faut savoir que cette expérience, elle est toujours présente. Vous parliez d'émotions. Moi, je sais que ça fait 25 ans que je rencontre des gens, j'en ai rencontré plusieurs centaines qui ont vécu cette expérience, et l'émotion est toujours la même. Quand ils vous racontent ça, ils y sont. Ils y sont, et ça transparaît. Je veux dire que même si je suis un vieux briscard de ces expériences, j'en ai entendu tellement, ça me fait toujours le même effet. Ouais. C'est-à-dire que la boule dans la gorge, je l'ai autant qu'eux, presque. Ça vous remue quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond là derrière. C'est pas une hallucination, c'est pas un rêve qu'on vous raconte comme ça, ou une histoire un peu bizarre. C'est vraiment quelque chose de vécu qui va très loin, quoi, et qui est toujours présent, même parfois encore plus chez des personnes qui ont gardé ça par devers elles pendant des dizaines d'années.
Oui. Ce qui n'est plus tellement le cas, il y a des groupes de parole, il y a l'association que vous présidez, IANS, il y a quand même aujourd'hui des structures qui existent pour accueillir ce genre de témoignages, et c'est heureux. Hein.
Ben c'est ce qu'on essaie de faire, IANS France. C'est d'un côté de faire de la recherche, de l'information, et d'un autre côté, enfin tout ça est parallèle, monter des antennes régionales avec la possibilité, strictement réservée d'ailleurs aux personnes qui ont vécu cette expérience, de se rencontrer et de parler entre eux. Parce que si vous voulez, le gros problème, imaginez que vous ayez été à un concert qui vous a beaucoup remué, c'était une musique magnifique, tout ça. Et vous essayez de raconter ça à des sourds, à des gens qui n'ont jamais entendu, qui n'ont pas la moindre idée de ce que peut être la musique, de ce que peut être un son, simplement. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez comme comparaison, comme vous allez essayer de leur faire comprendre des choses. Et ils vont vous dire « oui, oui, ah oui, d'accord, oui, peut-être, oui ». Mais ils n'ont aucune idée. Si vous, enfin, vous pouvez raconter, parler de votre concert, de ce que vous avez entendu avec d'autres personnes qui connaissent la musique, même s'ils n'ont pas été à ce concert-là, ils savent ce qu'est la musique. Donc, vous allez déjà parler de quelque chose de commun. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe. Des personnes qui ont vécu cette expérience, le fait de se rencontrer, de parler entre elles, leur fait un bien énorme. Parce qu'ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui a connu la même chose. Donc, qui peut partager leurs émotions, leurs souvenirs, qui les comprend, qui ne va pas les juger. Et c'est l'essentiel pour intégrer cette expérience. La première des choses, c'est d'en faire quelque chose de normal, entre guillemets.
Il arrive aussi que les expérienceurs, à l'issue donc de ce qui leur est arrivé, des NDE, accroissent leurs possibilités, des possibilités latentes qui semble que tout être humain possède un peu en lui, la faculté de sentir ce que pensent les autres, la faculté presque de deviner l'avenir, etc. Il y a des facultés paranormales que développent certains expérienceurs. Vous avez été confronté à cela ?
Assez souvent. Ce qu'on retrouve en général, c'est la première des choses, c'est une sensibilité à l'autre. Ouais. C'est un peu cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui ressentait l'état interne, si vous voulez, l'état d'esprit des autres personnes. De nombreux expérienceurs sont sensibles, enfin, sont capables de sentir si quelqu'un va mal, et éventuellement avec le désir de l'aider. Sans qu'il y ait quoi que ce soit de dit, c'est simplement le fait d'être à côté d'une personne et de ressentir sa détresse éventuelle. Après, d'autres personnes, ou les mêmes, ont l'impression qu'il y a une porte qui ne s'est pas refermée d'une certaine manière, ont des prémonitions fréquentes. On a l'impression qu'il y a une porte qui ne s'est pas complètement refermée dans certains cas. Il faut savoir qu'un certain nombre d'expérienceurs peuvent avoir des petits aperçus des enfants qu'ils vont avoir, ou de leur vie future, de choses comme ça. Ce n'est pas forcément des trucs extraordinaires, mais ils ont... Le fait d'être en dehors du temps leur permet de voler, peut-être d'une certaine manière, et d'avoir de voir le passé, mais aussi dans certains cas leur avenir. Et une fois revenus à la vie courante, peuvent avoir de temps en temps des prémonitions qui peuvent même dans certains cas s'avérer extrêmement utiles, puisque certains peuvent éviter des accidents comme ça, ou savoir ce qu'il faut faire au moment d'un accident parce qu'ils l'ont vu à l'avance, ou des histoires qui sont simplement marrantes. Un jour, son gosse qui rentre d'une compétition de je ne sais plus trop quoi, et qui était tout content, maman, regarde, j'ai la coupe et tout. Oui, ben écoute, va goûter. Allez, je t'ai préparé le café au lait, tout ça. Enfin bon. Mais maman, et puis là, elle a réalisé, elle le savait, elle avait déjà vécu cette scène, elle savait que son gosse allait avoir le premier prix de cette compétition, et donc pour elle, c'est quelque chose qui datait de la veille ou de l'avant-veille. Donc, elle n'a pas pu partager sa joie. Et après, elle a réalisé, elle a eu du mal à lui expliquer, mais enfin voilà. J'ai pas mal de témoignages un peu dans ce genre, si vous voulez. C'est pas des choses extraordinaires, c'est simplement, voilà, c'est une porte qui s'est pas refermée, qui est pas toujours marrante non plus, hein, parce que c'est un peu comme ce qu'on voit dans les journaux, à la radio, c'est rarement des bonnes nouvelles qu'on vous annonce. Et il y a pas mal de gens qui ont une sensibilité qui sentent quand quelqu'un va mourir. Et ça, c'est très, 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 très lourd à porter. C'est pas du tout un cadeau. Hein, beaucoup de gens aimeraient bien pouvoir voir l'avenir ou avoir des dons comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que quand des personnes ont réellement ces, entre guillemets, ces dons, qui ne sont pas forcément des cadeaux, le fait d'avoir une sensibilité, c'est pas de la télépathie, mais c'est de l'empathie multipliée par mille aux autres. Ben malheureusement, c'est un peu comme si vous promenez dans une forêt, ça sent bon, ça sent l'étain après la pluie, les fleurs, tout ça, c'est très bien. Mais s'il y a une seule charogne à un kilomètre à la ronde, vous allez sentir que ça. Ouais. Dans la vie, c'est pareil. Quand on perçoit d'une manière autre... apparemment, c'est les charognes qu'on ressent, malheureusement. C'est ce qui sent mauvais, c'est les gens qui sont méchants, qui sont mesquins, qui sont calculateurs, qui sont... Voilà, et c'est pas... Les gens sympas, ça disparaît derrière. Donc, et c'est pareil, quand on sent l'avenir, on voit plus, malheureusement, des choses dures, tristes, des accidents, des morts, des maladies, que des bonnes choses.
Ouais. Alors là, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse, excusez-moi, parce qu'on parle justement de vision prémonitoire. Il arrive qu'au cours des expériences, pendant l'expérience, il soit donné à voir à l'expérienceur des images apocalyptiques de ce qui pourrait se passer sur Terre si nous ne changeons pas nos habitudes par rapport à l'environnement, par exemple. Vous avez aussi ce genre de témoignage. Kenneth Ring en a beaucoup parlé dans ses livres. Et ça, c'est inquiétant, ça aussi.
Oui, on a l'impression que oui, il s'agit plus de l'avenir de la planète.
De la planète, oui.
Et c'est une des raisons qui fait que les gens qui reviennent de cette expérience ont une conscience écologique, entre guillemets, accrue, tout simplement. Enfin, ils ont l'impression qu'on est tous un, que ce soit nous, les animaux, la nature. Déjà, c'est un ensemble. Ils ont une notion d'écosystème multiplié par mille, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est en interrelation et que si on perturbe notre écosystème, notre planète, notre univers, ça va mal finir. Alors après, les visions qu'ils peuvent avoir sont relativement symboliques ou reconstruites de manière symbolique par leur cerveau. C'est pas forcément les catastrophes qu'ils ont vues qui vont arriver telles quelles, mais effectivement, ils ont souvent une vision plutôt triste de notre avenir.
En tout cas, ça ressemble à un avertissement. Hein.
Ça, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'en rendre compte, mais bon, là, effectivement, dans ces expériences, quand ils ont une vision de l'avenir plus globale qui ne concerne pas que leur avenir à eux, mais l'avenir de la planète ou de l'humanité, le message, c'est attention, ça peut mal finir si on fait rien. Quoi.
Alors, quand donc les expérienceurs, on le voit, développent parfois des facultés qu'on appelle entre guillemets paranormales, vous n'aimez pas trop ce mot, on l'a compris, mais comment dans leur... Comment vivent-ils leur vie ensuite? Est-ce que ça change beaucoup de choses dans leur rapport avec leurs conjoints, avec leurs enfants, leur manière de voir la vie, leurs engagements politiques, religieux? Est-ce que ça change beaucoup de choses?
Ça change tout. Tout. très très souvent, il y a un changement de vie. Déjà, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté leur travail, qui avaient un travail qui était très rémunérateur, qui avaient réussi, entre guillemets, dans la vie, c'est-à-dire que ils avaient une grosse bagnole, plus deux ou trois pour leurs femmes et leurs enfants, une télé dans chaque chambre, tout ça, des vacances, un bateau à la mer, un chalet à la montagne, tout ça. Ils quittent tout ça parce que pour eux, il n'a plus qu'une importance. Ils changent d'amis souvent. Ça dépend. Des personnes qui étaient entourées par des gens sympas, il n'y a pas de changement. Mais pour certaines personnes qui étaient dans des logiques de réussite, entre guillemets, de pouvoir, tout ça n'a plus aucune importance. Donc ils vont quitter leurs amis, ils vont divorcer souvent. Ils vont quitter leur travail, ils se lancent très souvent, ça c'est quelque chose que j'ai vu je sais pas combien de fois, ils veulent aider leurs contemporains, tout simplement avec la notion qu'on est tous frères, qu'on est tous dans la même galère, et c'est un besoin qu'ils ont, donc ils se lancent dans ils apprennent à être thérapeute, faire la psychothérapie, ou ils se lancent dans les soins palliatifs, ils rentrent dans une association pour aider des gens qui souffrent à passer un cap. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent.
Et est-ce que finalement, ce ne sont pas les nouveaux initiateurs de l'humanité ?
On pourrait espérer que certaines personnes qui nous dirigent vivent un jour cette expérience pour voir ce qu'ils seraient capables d'en faire. Mais j'ai vu réellement des cas extraordinaires. Quelqu'un qui est dans un milieu médical, par exemple, qui était vraiment dans la logique, enfin, disons qu'il fallait être grand, blond, riche, et que tout le reste, il fallait avoir sa Rolex, parce que sinon on n'avait pas réussi sa vie. Tout ça, enfin, il était vraiment comme ça, il le dit lui-même. Il était très dur sur le plan politique, entre guillemets.
Et on comprend. On a compris ce que vous vouliez dire.
Et quand il est revenu, il a changé complètement. Et son gros problème, c'était son épouse. Il m'a dit, moi, quand j'étais à la maison de rééducation après mon arrêt cardiaque, il y avait un petit arabe qui était tout jeune et qui a fait un arrêt cardiaque, on ne savait pas pourquoi. Et il dit, mais on est devenus copains. C'est un type que j'aurais même pas calculé avant. Je méprisais tout ce qui n'était pas comme moi. Et il dit, on était tout le temps ensemble, on discutait, il y a ses parents qui venaient, et je leur serrais la main, je ne voyais pas de différence avec les autres. Alors qu'avant, c'est des gens que je méprisais. Et ma terreur, c'était que ma femme arrive à ce moment-là et qu'elle me trouve avec ces gens-là, parce qu'elle n'avait pas changé. En même temps, son fils, qui voulait faire de la musique, lui, il avait décidé qu'il ferait un métier rémunérateur et que c'était de la connerie, qu'il fallait qu'il arrête tout ça. Et quand il est revenu, il a dit, écoute, tu as raison, continue, je t'encourage. Enfin, il a changé complètement.
Complètement, oui. Il est resté avec sa femme ?
Pour l'instant, oui, que je sache. Oui.
On se dit que forcément, on entend parler de plus en plus de ces expériences parce qu'on a fait des progrès gigantesques dans la réanimation. Donc, on se dit qu'il y aura de plus en plus de NDE portés à notre connaissance. C'est ce que le psychologue américain Kenneth Ring dit en disant que nous sommes en route vers Oméga, que ces expérienceurs nous poussent un peu vers le haut finalement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une incidence sur le cours de l'histoire de l'humanité ? Pour faire grandiloquent.
Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, la réanimation fait de grands progrès, et pour ce qui concerne les expériences de mort imminente, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qu'on ramène vraiment des derniers stades, quoi. Des gens qui étaient vraiment... Il y a 10 ans, on les aurait pas réanimés, donc on a de plus en plus de personnes qui reviennent en ayant vécu cette expérience. Et après, on peut espérer aussi que ce qui ramène cette expérience puisse être contagieux d'une certaine manière. Le problème, c'est que l'homme est fait de telle manière qu'il n'entend pas ce qu'il ne peut pas comprendre. Donc, pour beaucoup de gens, ces expériences ne sont que des histoires, d'une certaine manière. Et si on veut qu'elle participent ou qu'elles initient ou qu'elles entraînent une prise de conscience dans un sens altruiste, écologique, enfin, je veux dire, sur le fait qu'on ait une responsabilité, que la vie a une utilité, que le plus important c'est l'amour, tout ça c'est très bien, mais il faut encore l'entendre, il faut ensuite le mettre en pratique. Après, J'ai peur que ça soit beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, parce que c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'expérience. Alors, l'intérêt, c'est que plus il y a de gens qui ont vécu ça, plus ces gens-là pourront changer leur vie et peut-être un petit peu ce qu'il y a autour d'eux, effectivement. Pour le reste, je me rends compte, depuis que je travaille sur ces expériences, que une majorité du grand public n'y voit que la promesse d'une survie, d'une certaine manière, de la conscience après la mort, et c'est tout ce qui les intéresse. Ce qui intéresse ces personnes, moi, il y a une espèce de hiatus énorme entre l'intérêt des expérienceurs, les questions qui se posent et qui me posent éventuellement, c'est qu'est-ce que je fais de cette expérience, de ce que j'ai compris. Ce qui les intéresse, c'est le sens de la vie, c'est d'aider les autres, c'est de faire ce qu'ils peuvent pour vivre dans un monde meilleur, d'une certaine manière. Et l'intérêt du public, qui lui, va lire, écouter, entendre, regarder éventuellement des dizaines d'expériences, mais pour se rassurer sur le fait que, bon, ben voilà...
Sa peau est sauvée.
Voilà. Donc, j'ai perdu mon frère ou ma mère, ça va, ils sont toujours quelque part. Et moi, quand je serai mort, je serai toujours là. Voilà. C'est tout, malheureusement, ce qui intéresse le grand public, alors que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça, c'est un des messages que j'aimerais faire passer. C'est pour ça qu'il faut donner la parole aux gens qui ont vécu cette expérience, parce que c'est eux qui peuvent dire ce qu'ils ont vécu, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Mais ça, il faut que ça passe.
Avant d'aborder le côté scientifique et recherche scientifique, j'ai une autre question à vous poser. Le rapport des expérienceurs à la religion change aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ouverts qu'ils pouvaient l'être avant ce qui leur est arrivé, non ? On a ce sentiment d'ouverture maximale.
C'est une ouverture plus à une spiritualité qu'à la religion.
C'est une religion.
C'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement, c'est pratiquement tout le temps. Les personnes qui ont vécu cette expérience, qu'elles aient été croyantes ou complètement mécréantes, entre guillemets, se retrouvent dans une espèce de spiritualité, mais laïque. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-delà des religions. Une des caractéristiques à la suite de cette expérience, c'est en même temps que l'altruisme, que cette notion de rechercher de l'amour et d'en donner, c'est le refus de tout ce qui est dogmatique. Que ce soit sur le plan religieux, mais aussi politique, philosophique ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui, d'une certaine manière, qui ont appris à penser par elles-mêmes et qui ne s'en laissent pas compter, si vous voulez, tout ce qui est système, que ça soit, je vous dis, philosophique, politique, religieux ou autre, ça les insupporte. Ils disent que chacun doit trouver sa voie et qu'il n'y a pas besoin, je veux dire, tout ce qui peut être enseigné d'une manière ou d'une autre enferme. Alors qu'eux, ils ont appris la liberté totale, d'une certaine manière, et la connaissance, même s'ils n'ont pas ramené le millième, parce qu'ils n'ont pas pu, ils refusent tout ce qui est dogmatique. Par contre, ils se retrouvent dans quelque chose qui dépasse, ils vous disent tous plus ou moins, bon ben les religions, c'est à l'usage humain, ça est, voilà. C'est peut-être...
Ce sont des véhicules, on va dire.
C'est un véhicule, c'est une façon de cristalliser d'une certaine manière ces notions d'infini, d'amour, qui varient selon l'époque, selon la culture, selon la langue même. Enfin, et c'est quelque chose qui est à usage humain, mais c'est quelque chose qui est très synthétique, qui est très souvent devenu dogmatique, donc qui a tendance à enfermer, alors que eux, ils sont pour une ouverture. Pour une évolution d'une certaine manière. Donc ils refusent les dogmes. Et ils se retrouvent là-dedans, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance préalable. Ça n'a rien à voir avec le fait de... d'ailleurs, on retrouve, sauf dans certains cas où, par exemple, l'être de lumière peut être assimilé à
une figure religieuse, un prophète ou un...
Oui. Éventuellement, ce qui n'est pas très très courant chez nous, aux États-Unis, oui, beaucoup plus, et au Québec, parce que les gens baignent dans la religion, c'est le bon Dieu est omniprésent, donc ça fait partie de... C'est comme l'air qu'on respire, d'une certaine manière, donc bon, ouais, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, mais la plupart du temps, on pourrait penser que quelqu'un qui est très croyant, s'il devait halluciner quelque chose pour se rassurer, comme certains en font l'hypothèse, le mieux, c'est de se servir de ce qu'on a au fond de soi, donc de se servir des croyances qu'on a. Et c'est pas le cas. Ces expériences sont d'une certaine manière extrêmement objectives puisqu'elles sont totalement indépendantes de ce qu'on peut croire avant ou de ce qu'on peut espérer ou de ce qu'on peut craindre.
Voilà, nous arrivons au terme de la seconde partie de cette émission consacrée aux expériences de mort imminente. Nous retrouvons le docteur Jourdan la semaine prochaine pour le volet scientifique, comment la science peut-elle s'emparer ou comment les sciences d'ailleurs, nous le verrons la semaine prochaine, comment les sciences peuvent-elles s'emparer de cette question des expériences de mort imminente? Eh bien, nous le serons donc en écoutant le docteur Jourdan la semaine prochaine. Excellente fin de journée à toutes et à tous et restez à notre écoute, bien sûr.
No matter how I try, I just can't get her out of my mind. And when I sleep, I visualize her. I saw her in the pub. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us. We talked about the noise and how it's hard to hear your own voice above subbase. We talked and talked for hours. We talked in the back of our friend's car as we all went back to his place. She told me that she really liked me, and I said, cool, the feeling's mutual. We played all 45s. I said, it's like the soundtrack to our lives. And she said, true, it's not unusual. Seem to keep our balance. A drunken haze had come upon us. We sank down to the floor and we sang a song that I can't sing anymore. And then we kissed and fell unconscious. Stumbled out to find the bathroom, but all I found was her wrapped around another lover. No longer then is he our mutual.